On accueille donc Paul Masson, militant d'éducation populaire. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors, pour un éclairage et tenter de comprendre un peu cet attentat qui s'est déroulé donc au lycée Gambetta d'Arras par un ancien élève radicalisé. D'abord, première question que j'ai envie de te poser, ton ressenti personnel quand tu as appris la nouvelle ?
Ça a été un côté sidération, mais j'ai fait le lien avec la situation internationale, avec ce qui se joue actuellement entre Israël et la Palestine. C'est plutôt ça, je me suis dit, on est dans cette situation piégée, ça fait 75 ans qu'on a créé une situation qui fait qu'il y a une radicalisation de partout. Et ça a été ça, quoi. Et après, il y a eu une sorte de réflexe. Ça te passionne pas, tu n'as pas envie de regarder la télé. C'était plus, il ne faut pas que tu regardes les événements en direct, alors que tu n'auras aucune information. D'avoir des gens qui te font voir des trucs, et puis qui disent « mais on ne sait pas ». Tout ça, ça crée de l'émotion qui a plutôt tendance à empêcher de penser. Et puis c'est après que je me suis dit, faut t'informer. Voilà ce que j'ai ressenti. Mais il y a ce côté sidération et un petit peu impuissance. Impuissance parce que le problème, il est tellement dans un contexte global et que c'est le contexte qui peut permettre d'expliquer.
L'école, donc, du coup, c'est le gros, la thématique un peu de cette interview. Hein, on va revenir sur le rôle de l'école, ce qu'elle dégage. Enfin, c'est voilà, par rapport aux élèves, mais aussi ce que les élèves sont à l'école, le monde enseignant, etc. Il y a un attentat qui est commis par un ancien élève, et du coup, on se demande, comment le monde enseignant aujourd'hui peut continuer à faire son métier correctement sans devoir justement se justifier auprès des élèves. Et c'est compliqué, c'est un contexte très compliqué.
Les deux mots qui me sont venus spontanément, c'est l'aspect violence, et violence énorme, et l'autre, c'est fanatisme.
Alors, le fanatisme, on va en parler parce que c'est aussi une brèche qui ouvre justement peut-être un moyen de comprendre comment c'est possible. Qu'il arrive dans une école.
En même temps, violence et fanatisme, c'est les deux mots qui me sont venus, mais ces deux mots qui sont dans le rapport dialectique l'un par rapport à l'autre. La violence favorise le fanatisme. Plus je suis victime de violence, plus j'ai tendance à me fanatiser. Et plus je suis fanatisé, plus je deviens violent. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a un lien très direct. Et que les deux mots s'opposent, le contraire de fanatisme, c'est rationnel. C'est-à-dire, tout ça, c'est l'émotion qui commande et bloque la capacité de réflexion. Et c'est quand même, comment qu'on sort d'une situation, c'est quand même par la réflexion. Et la réflexion, c'est la raison d'être de l'école. C'est-à-dire qu'une atteinte, s'en prendre à l'école, c'est s'en prendre à ce qui s'oppose au fanatisme. C'est pas indifférent. Là, c'est un prof de français qui a été tué, mais il y a 3 ans, c'est un prof d'histoire.
Oui, Samuel Paty.
Samuel Paty, c'est un prof d'histoire.
Sachant que, l'auteur de cet attentat au lycée Gambetta cherchait un professeur d'histoire. Ce qui m'amène justement à te poser une question. Est-ce que les professeurs d'histoire qui enseignent l'histoire avec tout ce qu'elle comporte, etc., ce qui ne sont pas non plus des cibles privilégiées justement parce que ils enseignent une matière qui est particulière ?
Je pense qu'effectivement, l'histoire, la philo, les profs ont plus de chances d'être victimes des attaques fanatiques que le prof de mathématiques. Effectivement, parce que ça suppose de travailler sur la réflexion. Il n'y a pas une mathématique 1 plus 1, ça fait 2. C'est pas discutable. L'histoire, c'est une construction à partir d'événements. Et cette construction, elle se fait en permanence. La philosophie, c'est apprendre à réfléchir, à se questionner, à remettre en cause des schémas tout faits. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est plus dangereux, quoi.
À l'heure où on se parle, évidemment, il y a eu d'autres faits. Hein. On va revenir vite fait sur l'attentat qui a eu lieu aussi à Bruxelles, sur des supporters d'une équipe de foot hein, suédoise hein, qui étaient là juste pour supporter leur équipe. Est-ce qu'on peut appeler ça une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment des faits qui sont liés? Justement, tu parlais tout à l'heure de l'acte, on va dire terroriste, hein, faut dire ce qui est du Hamas. Donc en Israël, et des répercussions que ça va aussi être pour le peuple palestinien et vice-versa, ça va être un jeu de ping-pong, voilà, cette guerre dure depuis longtemps. Est-ce que tout ça est en train de se mettre en maillon de chaîne, on va dire, avec tout? Est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qui se passe au niveau contexte géopolitique, ce qui s'est passé au lycée Gambetta, ce qui s'est passé en Belgique? Est-ce qu'il n'y a pas non plus une avalanche justement de... Parce que ce sont des individualités, en fait, ce n'est plus des actes, à part ce qui s'est passé, évidemment, dans la bande de Gaza et puis en Israël. Mais notamment en France, lycée Gambetta, mais aussi à Bruxelles, ce sont des actes individuels. Et du coup, on n'y comprend plus rien. En fait, on se demande si ça n'a pas un lien vraiment avec le climat actuel qui est en train d'être hyper anxiogène.
Oui. Effectivement, ces actes, c'est des révélateurs d'un dysfonctionnement plus global, où la violence prend une importance relativement grande. Violence, il y a le contexte de la guerre en Ukraine.
Aussi.
Qui est là depuis en permanence. Mm-hmm. Le contexte de la situation de la Palestine par rapport à Israël, qui passe par des crises régulières. Et du coup, j'ai regardé la carte de la Palestine depuis 1947. On voit que la Palestine se rétrécit de plus en plus. Et j'avais entendu cette réflexion, parce qu'une fois, je causais avec quelqu'un qui était pro-palestinien et qui dit que je disais, mais les attitudes d'agression du peuple palestinien par rapport à Israël se retourne contre eux. Mmh. Et il m'a fait cette réflexion. Quand est-ce que tu entends parler de la Palestine? Uniquement quand il y a des attentats.
Ouais,
C'est
un fait. Hein.
Le fait de ne pas connaître la situation ne permet pas de prendre du recul et permet à ceux qui ont intérêt à bloquer la réflexion. Et on va le retrouver au niveau du vocabulaire. Les terroristes, c'est les Palestiniens. Mmh. Les Palestiniens, c'est un peuple. Un peuple n'est pas terroriste. Mmh. Il faut détruire, il faut envahir Gaza pour éradiquer le Hamas. Attends, le Hamas, les habitants de Gaza et les Palestiniens, c'est trois réalités différentes.
Ah ouais, on est bien d'accord.
Et on va utiliser le vocabulaire de l'un, de l'autre. Ça va être un peuple qui va être la même chose par rapport à Israël. Le gouvernement israélien conduit une politique pour prendre du terrain sur le territoire palestinien. C'est le gouvernement, c'est une politique qui est conduite. C'est pas les Juifs. Il y a des Juifs qui n'habitent pas du tout en Israël. Il y a des Israéliens d'origine juive qui sont contre cette politique-là. Et on va dire, c'est de l'antisémitisme que de condamner la politique d'Israël. On crée la confusion. Mmh. Et là, c'est relativement facile parce qu'il n'y a pas l'information qui donne tout ça.
On parle d'amalgame, donc, justement, et on revient quand même à cet attentat donc, commis par un jeune Tchétchène, justement, qui a peut-être aussi, alors sans prendre sa défense, hein, forcément, mais subit une certaine forme de violence, puisque tu peux revenir sur un peu le contexte, la Tchétchénie.
La Tchétchénie, après la chute de l'Union soviétique, qui va se trouver dans une situation de confusion, les habitants de Tchétchénie qui sont amenés à partir à immigrer. À cette occasion de cette immigration, eh ben, il va y avoir le droit d'asile, accordé, pas accordé. Par rapport au droit d'asile, c'est des années pour des gens. C'est source de tension. Et le père du gars qui a été...
Qui a commis l'attentat,
a été expulsé. Comment le gosse se construit là-dedans? Son acte est répréhensible et il n'y a pas de justification de son acte. Mais cette situation, c'est une situation de violence qui s'exerce sur de plus en plus de gens, qui fait que ça conduit à des passages à l'acte inadmissible et inefficace. Parce que bon, lui, ben, il va passer un certain nombre d'années en prison, mais qu'est-ce qu'il aura fait? En quoi il aura fait avancer sa propre cause?
C'est compliqué à comprendre, ça, justement. Oui. On est bien là pour analyser, essayer de comprendre hein, le passage à l'acte, mais aussi, bien évidemment, de comprendre le contexte aussi, un peu géopolitique, partout dans le monde. Et en ce qui concerne donc cet attentat envers un professeur et d'autres qui ont été blessés, donc on parlait tout à l'heure qu'ils cherchaient un professeur d'histoire et on se demandait justement aussi est-ce que les professeurs d'histoire sont pas non plus des cibles privilégiées. Mais moi j'aimerais bien revenir rapidement sur le fait d'enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant enseigner? Moi je me pose la question, tous ces jeunes enseignants qui sortent de l'école et qui vont devoir avoir en responsabilité une classe. On se demande, moi, voilà, je me demande, mais comment on va faire pour enseigner aujourd'hui sans avoir peur? C'est un peu la question que je me pose.
Là, je suis un peu à court parce que je ne suis pas enseignant.
Ouais,
Oui.
Moi, je me pose la question de savoir comment les enseignants maintenant vont devoir anticiper. Est-ce qu'ils vont devoir dire ben non, je peux pas dire ça, je peux pas enseigner ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que ben les élèves vont pas réagir. On se pose la question en fait, alors qu'avant, c'était comme tu disais tout à l'heure, l'école sert à apprendre, comprendre le monde, etc., évoluer et puis se former. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui se mettent de plus en plus.
Alors, je pense que la forme de l'enseignement, l'enseignement pendant un temps, c'était faire passer des connaissances. Point final. L'enseignement nécessite maintenant, dans le nouveau contexte, non plus de faire passer des connaissances seulement, mais de comprendre pourquoi ces connaissances, d'où elles viennent, comment... C'est tout ce mécanisme de compréhension. Ça pose le problème. Moi, j'ai été formateur pendant un certain nombre d'années. Quand j'étais formateur, le groupe, c'était 12 à 15 personnes. On ne montait pas au-dessus de 15 personnes, parce que en dessous dans ce cadre-là, il y avait un apport de ma part. Mais il y avait beaucoup de travail sur qu'est-ce qu'on vient de nous dire, comment on le reçoit, et de débats et d'échanges. On était dans une logique non pas d'apport de connaissances, mais d'éducation collective à partir de ce type d'échange. Et donc, effectivement, ça va jouer sur la manière d'enseigner et les conditions d'enseignement. Les enseignants donnent un certain nombre de connaissances, mais la majorité des enfants... La majorité des connaissances qu'ils ont, ils ne les acquièrent pas uniquement à l'école. Il y a tout le conditionnement familial qui valorise l'école ou pas. Quand il y a un conflit entre un élève, un prof et les parents, sans aller... Moi, s'il y avait conflit avec mon enseignant, je n'en parlais pas à mon père. Parce que l'enseignant avait obligatoirement raison. C'est pas ça. Mais si... L'enfant, quand ses parents, il en parle à ses parents le soutiennent sans même avoir été rencontrer l'enseignant, voir qu'est-ce qui s'est joué, eh ben l'enfant, il va dire j'ai raison. Ils entendent par rapport à la fanatisation, il peut y avoir dans la famille, et c'était le gars, l'exemple du gars qui a commis ce meurtre. Un conditionnement idéologique. Ça va aussi jouer. Et puis après, il va y avoir tout ce phénomène des réseaux sociaux. Il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, maintenant, l'information sur les réseaux sociaux, elle est de partout. Je me rappelle la première fois en stage, j'animais un stage, et il y a quelqu'un qui me pose une question précise. C'était sur le Sénat. Et je n'ai pas su répondre. Et puis il y en a un qui dit, eh bien c'est ça. Il venait de regarder sur le portable. Il avait l'information. Donc, il y a d'autres sources d'information que celles du professeur. Et cet exemple-là fait que, pour moi, c'est une richesse. Mais le professeur qui va donner un enseignement sur Internet, on va pouvoir trouver tout et n'importe quoi différent de ce que va dire le professeur. Et tout est... c'est pas du tout hiérarchisé. L'information... exact, l'événement exact, l'information emballée qui crée la confusion et l'information complètement fausse qui ne correspond pas à la réalité, on va le retrouver sur Internet. Ça, c'est le premier inconvénient. C'est que finalement, on a l'impression que trop d'informations empêchent de s'informer. L'autre élément de ça... c'est qu'une information chasse l'autre en permanence. Et pour comprendre, il faut s'arrêter.
Ouais.
Il faut prendre du temps pour s'arrêter. Qu'est-ce que j'entends? D'où vient cette information? Est-ce que j'ai des contradictions à cette information? Il s'agit de faire ce travail-là. C'est le boulot de l'école, mais pas uniquement le boulot de l'école. C'est le boulot de la société. Et dans la société... Il y a eu tout un discrédit du milieu enseignant par la famille, mais il y a un an, c'est une ministre.
C'était la ministre en charge de l'enseignement supérieur, hein, Frédérique Vidal,
voilà,
qui a tenu des propos.
Et qui remettait en cause la recherche universitaire dans le domaine de... l'islamo-gauchisme.
Oui, c'est ça.
Il y avait de la recherche qui était dans un domaine. Non, il ne faut pas chercher là-dedans. Quand le ministre discrédite la recherche universitaire, ça a fini de créer cette confusion. Où est l'information? Comment se former? Apprendre à maîtriser l'information, on va l'apprendre aux journalistes à vérifier leurs sources. Et ouais. Il faudrait que tout le monde soit en capacité de vérifier
voilà. Donc, on a des élèves donc, de lycée, de collège, etc. Vérifier les sources avant d'imposer un point de vue ou de penser qu'il n'y a que ce média-là qui... voilà. C'est compliqué, mais en même temps, c'est important. Et je pense que l'éducation aux médias et je pense que le monde enseignant essaye et tend à proposer justement aux élèves et aux plus jeunes de pouvoir vérifier les sources et surtout de ne pas se fier à un seul média.
Puis, oui. Les moteurs de recherche. Je pense quelque chose et je cherche quelque chose dans une direction. Les moteurs de recherche, pour leur boulot, vont chercher les autres informations que j'ai dans ce domaine. C'est-à-dire que si je suis seulement ce que me donnent les moteurs de recherche, je vais me conforter dans les croyances que j'ai, qu'elles soient justes ou qu'elles ne soient pas justes. Les moteurs de recherche ne favorisent pas la réflexion, ils favorisent l'endoctrinement, d'une certaine manière, puisque ce qu'il propose, c'est ce qui va dans le sens de ce que j'ai envie d'entendre. C'est aussi un inconvénient pour la compréhension.
En ce qui concerne donc les réseaux sociaux, c'est une source évidemment presque anxiogène parfois. On évoquait ça avec des ex-lycéennes de Gambetta qui se sont exprimées sur l'antenne de PFM qui disaient justement il faut faire très 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 attention aux informations et à bien réfléchir et à prendre le recul, comme tu disais tout à l'heure, et s'arrêter pour dire attention, je vais réfléchir à ce qu'on vient de me proposer et est-ce que c'est la réalité ou pas. Donc voilà. On peut revenir également sur ce qui s'est passé donc au lycée Gambetta. Et moi, je me posais une question également. Est-ce que, vu le contexte géopolitique à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas non plus, notamment en ce qui concerne la France, mais même, peut-être même en Europe, la montée des extrêmes qui se frottent les mains justement parce que, ben voilà, et ils nous disent « on vous avait prévenu ».
Oui, oui, cette situation-là favorise les, eh ben, ceux qui sont dans le domaine du fanatisme, qui clivent. Il y a les bons, il y a les mauvais, il y a ceux qui ont raison, c'est nous, et puis les autres qui ont tort, ça effectivement. Et la réponse, ça se pose en termes de diviser la société et monter les uns contre les autres, c'est-à-dire accentuer la violence qui accentuera le fanatisme. Effectivement, c'est excessivement dangereux. D'ailleurs, on le retrouve, le Hamas est fanatisé, et avec derrière, notre ennemi, c'est l'État israélien. Et en Israël, on a tout le courant religieux, notre ennemi, c'est les Palestiniens, puisque cette terre nous a été donnée par Dieu. Et on trouve aussi tout ce phénomène-là au niveau religieux. Religieux, étymologiquement, ça veut dire relié. Et on s'aperçoit que les religions ont tendance de plus en plus, dans toutes les religions, on retrouve ça dans le catholicisme intégriste, on retrouve ça dans les protestants évangélistes de Bush, où il y a nous qui avons raison et les autres qui sont des ennemis. Effectivement, il y a tout ça. Au niveau politique, on voit effectivement l'extrême droite gagner du terrain régulièrement. Et l'extrême droite repose sur, il y a nous et puis les étrangers. Effectivement, ces mécanismes-là favorisent la montée du fanatisme religieux et politique.
Et puis, peut-être pour presque terminer, l'effet de psychose également, hein, qui va monter en puissance, notamment chez les élèves, chez les parents, chez les enseignants, mais aussi dans la rue. On sait que l'attentat a été commis par un Tchétchène, et on a déjà entendu parler d'amalgame en disant « il faut arrêter de prendre des étrangers, etc. » Et moi, j'ai un petit peu peur que justement, les étrangers qui sont en France subissent les conséquences, encore une fois, peut-être sur Arras, on n'est pas certain, mais qui subissent les conséquences de ce qui s'est passé.
Oui, les étrangers. Les gens qui ont une religion, parce que ça va être les musulmans qui sont fanatiques. Les musulmans ne sont pas fanatiques, c'est une religion. Les catholiques ne sont pas fanatiques, c'est une religion. Il y a des fanatiques. Les juifs ne sont pas fanatiques, il y a des fanatiques. Les religions, qui aussi, les étrangers, les religions, tout, qui vont être discrédités.
Bon, en tout cas, merci Paul, et puis à bientôt sur PFM.
Merci.
Merci.